Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus, très nombreux, trop nombreux. Donc je salue tous ceux qui sont dans l'autre amphithéâtre et qui me voient à travers des engins qui ont beau être sophistiqués et performants, ne remplacent pas la présence directe. Donc je suis désolé, on essaiera de profiter de temps en temps de Marguerite de Navarre, mais ce ne sera pas trop possible, pas très souvent cette année. Donc voilà, et faudra faire avec. Et puis si vous continuez à être fidèles, alors je pense que pour l'année prochaine, on prendra des dispositions. C'est la première année, c'est toujours le prix à payer. On ne sait pas très bien et sur combien de fidèles on pourra compter. Et moi, je pensais bien qu'avec tous ceux d'entre vous qui ont suivi les cours de Jean-Marie Durand, qui suivent ceux de Thomas Römer, il y avait un public potentiel, comme on dit, important. Mais voilà, il faut avoir la première, se lancer une première fois. Donc, le cours de cette année, vous l'avez vu, est consacré au temple en Mésopotamie et avec un sous-titre particulier, approche fonctionnelle. Il y a une division traditionnelle en assyriologie, faite en particulier par Oppenheim dans son livre sur la Mésopotamie, portrait d'une civilisation, auquel j'ai fait allusion dans ma leçon inaugurale. Division traditionnelle de la vie en deux groupes. D'un côté, les grands organismes, palais et temples, et puis, d'un autre côté, les particuliers. Et la question, donc, c'est celui du statut des temples, et en particulier de leur degré de fermeture. Et donc, je commencerai par deux citations qui mettent l'accent sur ce phénomène. L'avis de Daniel Arnaud d'abord, qui a écrit récemment « Les sanctuaires en Babylonie étaient de grands organismes qui se voulaient soigneusement isolés de ce qui les entourait. Ils l'étaient physiquement par leurs murailles et économiquement par ce que l'on pourrait appeler leur autarcie agricole et artisanale. Mais même dans le domaine religieux, ils s'en tenaient à un renfermement clérical, une seule influence extérieure les faisant céder, celle du roi, et faiblement. Certes, ils remplissaient leur fonction d'assurer à la communauté humaine la stabilité et la prospérité par l'exercice d'un rituel minutieusement réglé, mais ce monde de l'extérieur, objet en somme de tous leurs soins et qui seul justifiait leur existence, était strictement tenu à l'écart de l'espace consacré. » Et pour faire bonne mesure, deuxième citation qui cette fois est empruntée à un archéologue, Jean Margueron, « Qu'entend-on par temple au Proche-Orient ? Il s'agit pour les anciens tout simplement de la maison du Dieu, au sens le plus strict, c'est-à-dire de l'endroit où il vit et où les hommes qui le servent en le nourrissant et en assurant la satisfaction de ses désirs. Ce n'est pas le lieu d'une adoration collective, mais plutôt une maison souvent encore plus renfermée sur elle-même que celles qui servent aux hommes et qui n'étaient accessibles qu'à des privilégiés. » Alors, il y a des tas de choses vraies, intéressantes dans ces propos, mais je me demande si cette vision des temples mésopotamiens, avant tout fermés sur eux-mêmes, est complètement juste. Et donc, je souhaiterais voir avec vous cette année comment les temples, en fait, étaient plus ouverts sur la société que ça n'a été estimé, et notamment montrer qu'ils y remplissaient des fonctions qui relèvent pour certaines de ce que nous appellerions le service public. Alors, avant de commencer, je voudrais aujourd'hui, dans cette séance d'introduction, présenter un certain nombre de généralités. D'abord, au point de vue bibliographique, rappeler l'existence de deux brèves synthèses récentes, celle de Walter Salaberger dans le Real Lexicon der Assyriologie, qui est en allemand, qui porte sur les temples au 3e et 2e millénaire, et celle de Paul-Alain Beaulieu, qui porte sur les temples aux néo-babyloniens pour l'essentiel et qui a été publiée en anglais. Et puis, il y a également un colloque qui s'est tenu en 2009, dont les actes sont parus l'année dernière. Alors, comme d'habitude, dans ce genre de colloque, il ne s'agit pas véritablement d'une synthèse, mais d'une juxtaposition d'études, mais qui sont en l'occurrence toutes d'un très bon niveau, ce qui n'est pas toujours le cas des ouvrages collectifs. Et la seule chose que je regrette un peu, c'est que les contributions soient mises par commodité dans l'ordre alphabétique des auteurs, ce qui est pratique d'un côté, mais empêche de voir le regroupement thématique chronologique des contributions. Pour notre séance d'aujourd'hui, je voudrais successivement rappeler un certain nombre de données générales sur les temples en Mésopotamie et ensuite prendre un exemple concret qui sera le temple de Lébabar de Larsa. D'abord, comme les citations que je vous ai lues le rappelaient, le temple se définit comme la maison du dieu. On le voit aussi bien en sumérien, où c'est le sumérogramme Edeu, qui veut dire maison, plus le nom du dieu qui décrivent le temple, et en akkadien, on a le mot Bitum, qui veut dire maison, à l'état construit, donc Bit, et puis un nom de dieu. Et dans les listes lexicales, on trouve également la glose Shubat, plus un nom de divinité, donc demeure de telle divinité, ce qui ôte définitivement toute hésitation sur le sens de Bitum dans ce contexte, c'est bel et bien la maison du dieu. Alors, le parallèle avec les maisons des particuliers est clair, la maison c'est là où réside le dieu. Avec le roi, c'est un peu différent, puisque le palais se dit Edegal. Mais il faut se rappeler qu'en sumérien, le roi Lugal, eh bien, c'est également Ludegal. Donc vous avez la maison grande qui correspond à la demeure de l'homme grand. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'au IIIe millénaire, on trouve parfois, notamment dans les tablettes présargoniques de Marie, l'expression « Edelugal », la maison du roi, à la place de Edegal, le palais, ce qui montre bien que, dans ces hautes époques, la spécificité du palais n'était pas encore ressentie de façon telle qu'on ait partout employé ce qui devint par la suite l'idéogramme constant pour le palais Edegal. On n'a pas seulement « Edeu », maison pour désigner un temple, il y a d'autres mots qui sont employés. Par exemple, en sumérien, on a le terme de Eshtroi, qui désigne un sanctuaire ou encore un téménos. En akkadien, on a le mot Ashirtu ou Eshirtu, dont l'idéogramme est Zatroi-Garra, qui désigne un sanctuaire, et ça peut être très varié, ça peut être un grand sanctuaire, ça peut être aussi une sorte de petite chapelle dans une maison privée, on a, si j'ose dire, toute la gamme. Dans sa maison, le dieu ne vit pas seul, de la même manière que les demeures des habitants de la Mésopotamie comprenaient épouses, enfants et entourage. Eh bien, il en allait de même pour les temples. Et nous avons des listes de divinités dans lesquelles on voit bien que un dieu a tout un entourage. Et cet entourage, il ressemble à ce qu'on voit autour du roi en particulier. Il a un ministre Shukalum, de la même façon qu'un souverain, etc. Alors, le problème que cette représentation nous pose, c'est bien sûr celui de la projection. Nous avons tendance à penser que les temples se sont façonnés sur le modèle des palais, mais il n'est pas impossible aussi que le sens des influences est parfois joué aussi dans l'autre sens. Le roi, voulant mettre plus de distance à certaines époques avec ses sujets, et donc introduisant des rituels qui peuvent être influencés par ceux qu'on trouve dans les palais. Les cas où un temple est créé ex nihilo, d'une façon que nous pouvons constater, sont très rares. On peut citer à l'époque hellénistique le temple Resh, qu'on appelle parfois le Bitresh, à Uruk. Et pour qui connaît un peu la civilisation mésopotamienne, la présence des temples semble si naturelle que poser la question de la date de leur apparition peut paraître un peu étrange. Pourtant, il n'y a pas eu des temples de toute éternité, et la date de leur apparition a fait l'objet de vives discussions entre archéologues. Alors, on a une vision classique qui s'est faite de manière rétrograde, si je puis dire. C'est ce qui a été fait par les fouilleurs irakiens et anglais à Eridu, à Bouchareïn, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Au pied de la ziggourat, vous en avez ici une représentation telle que j'ai eu la chance de la voir en 1974, donc ils ont fouillé. Alors, la photo que vous avez en bas à droite, je n'étais pas là en 1947, donc vient des fouilles. Et vous avez ici le bâtiment le plus récent qui a été retrouvé. Et vous avez ici les plans de tous ces bâtiments superposés qu'on a retrouvés. Alors l'idée, c'était que, puisqu'on avait un temple au bas de la ziggourat à époque récente, disons 3e millénaire, eh bien, en s'enfonçant, on allait avoir des temples de plus en plus anciens. Et donc, on nous montre que jusqu'à l'époque d'Obeid, lorsqu'on descend, eh bien, donc, vers 5000, en gros, on a une succession de temples qui sont du plus complexe. Donc ici, le numéro 5 sur le diapositive. Et puis ensuite, au-dessus, on a le numéro 4. C'est le contraire. On descend, n'est-ce pas? Donc on a celui-ci. En dessous, on a celui-ci. Encore là, et celui-ci. Et vous reconnaissez ici la forme de ce que nous avons vu sur la photo précédemment. C'est ce bâtiment-ci. Cette vision a pendant longtemps fait autorité. Et encore aujourd'hui, beaucoup de manuels continuent à présenter cette séquence comme étant un modèle. Et ce sont les fouilles dans la région du Jebel Hamrin, dans les années 70, qui ont permis de remettre en cause cette façon de voir. Et c'est en particulier Jean-Daniel Forest qui a lancé le mouvement. Pourquoi ? Parce que dans cette région, on a retrouvé des bâtiments qu'on appelle les bâtiments tripartites, c'est-à-dire dans lesquels vous avez un grand hall et puis vous avez deux autres parties du bâtiment à chaque extrémité. Hein, vous avez ce plan encore ici. Voilà ce qu'on appelle donc ces bâtiments tripartites. Et ces bâtiments tripartites, dans la région du Jebel Hamrin, clairement, n'avaient aucun caractère religieux. Et du coup, on s'est dit, ben, dans le fond, qu'est-ce qui prouve qu'à Our Eridu, il s'agissait aussi de temples ? Donc, on a remis en question l'idée qu'on ait une succession de temples à Eridu, où ça a été le mieux repéré, mais également ailleurs. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Louis Huot, « Les premiers villageois de Mésopotamie, du village à la ville », où, aux pages 160-167, vous avez le détail de cette discussion. Lorsqu'on arrive au troisième millénaire, il est sûr qu'on a des temples, et puis, à un moment donné, apparaissent les palais, et il faut bien avouer qu'au départ, il n'est pas toujours aisé de distinguer les deux lorsqu'on n'a pas d'inscription. La spécificité des palais se dégage petit à petit, mais comme souvent les couches du milieu du troisième, de la première moitié et disons jusqu'au milieu du troisième millénaire, ces couches sont très profondes. Donc on a atteint les bâtiments que dans des sondages d'ampleur limitée et par conséquent on n'a pas de plan complet. Donc on voit qu'on a affaire à des gros bâtiments qui sont clairement différents de l'habitat. Les archéologues prudents vous parlent de construction monumentale. C'est une façon de dire ça peut être un palais, ça peut être un temple, mais je n'ai pas d'éléments pour trancher. Et puis, il y a un autre problème aussi, qui est celui de Marie, qui est un peu spécifique, là, où à l'époque proto-dynastique, excusez la faute de frappe, on a ce grand bâtiment qu'on a parfois qualifié de temple-palais et qui pose en effet des gros problèmes. Donc, dans le cadre de cette introduction, je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus, mais je vous renvoie à un article que j'ai publié récemment où j'ai développé cette question. Peut-être qu'on sera amené d'ailleurs à y revenir dans le courant de l'année. Autre problème, là aussi quelque chose qui pourrait paraître une évidence mais qui n'en est pas, c'est la question des statues divines. On vous dit toujours que dans les temples mésopotamiens, eh bien, on a une représentation anthropomorphique de la divinité et que ces statues de culte, elles sont avec des traits humains en général et on donne des soins aux dieux, on y reviendra prochainement, on les habille, on les lave, dans l'ordre contraire éventuellement, on les fait manger, etc. Mais la question est de savoir à partir de quand les premières statues sont attestées. Maintenant, on a des indications à Ebla qui montrent que c'était déjà le cas, mais savoir jusqu'à quand on peut remonter dans le temps, c'est une affaire qui est loin d'être évidente. Donc, il faut se garder, toujours lorsqu'on a affaire à cette civilisation mésopotamienne plurimillénaire, de toujours reporter les éléments connus par les textes ou les fouilles d'époque récente, et puis considérer que ça a été toujours plus ou moins comme ça. Les Mésopotamiens eux-mêmes avaient ce sentiment, leur idéologie, on la trouve par exemple chez Bérose, en disant que la civilisation a été donnée toute faite par Oannès aux origines du temps, et depuis, plus rien n'a été inventé. Mais nous ne devons pas être victimes de cette façon de voir qu'ils avaient, parce qu'il y a des tas de domaines dans lesquels on peut, de façon très précise, voir qu'une évolution a eu lieu. Et donc, même si eux essayent de faire croire que rien n'a bougé, en réalité, ça n'est pas vrai. Alors, pour cette question des représentations de divinité, vous pouvez noter tout de suite sur vos tablettes, et maintenant c'est plus une figure de style, le colloque qui est organisé donc, par Thomas Römer, et en association avec l'ensemble de l'Institut du Proche-Orient, les 5 et 6 mai prochains, et dont le thème est cette année « Représenter hommes et dieux au Proche-Orient ancien et dans la Bible ». Donc cette question des statues divines, de leur éventuelle prohibition, au contraire, on en reparlera de façon approfondie à ce moment-là. Mais il n'est pas question ici des dieux, il est question avant tout des temples. Et je voudrais insister sur un point que je trouve suffisamment souligné dans les synthèses générales qui existent, et qui est la question de la personnification des temples. Les temples ont un nom sumérien. Les temples ne sont pas la seule réalité à avoir un nom. Les palais aussi peuvent en avoir un. Il y a les canaux également reçoivent un nom, les statues. C'est particulièrement développé concernant les temples. L'ouvrage de référence, c'est celui que Andrew George a consacré à cela. Ces noms de temples, eh bien, on les comprend bien et ils ont des statuts différents. Il y a d'abord les cas où le nom a un rapport avec une qualité de la divinité, mais pas forcément avec le lieu. Par exemple, Ebabar, donc qui veut dire le temple brillant, le temple lumineux, c'est le temple du dieu qu'en sumérien on appelle Utu, qu'en acadien on appelle Shamash, donc le dieu soleil, et donc on voit bien pourquoi le temple du soleil est un temple lumineux. Alors, c'est un petit clin d'œil à mon ami Jean-Louis Huot, parce que quand on fouillait les babars de Larsa, j'y reviendrai tout à l'heure, il parlait toujours aux journalistes du Temple du Soleil, parce que c'était un amateur de Tintin. Autre exemple, pour terminer à propos de les babars, ce nom est le même pour les deux temples voués au dieu Soleil, c'est-à-dire celui de la ville de Larsa, dans le sud de l'Irak actuel, et celui de Sippar, donc plus proche de Bagdad. Autre exemple, vous avez des cas où le nom du temple fait écho à celui de la divinité. Par exemple, Emar, eh bien, c'est le nom de la déesse mère qui s'appelle Ninmar, qu'on soit à Kesh, à Adab ou à Babylone. Donc là encore, on trouve le même nom pour des temples différents dans des lieux différents, mais qui sont voués à la même divinité. On a aussi des noms qui renvoient indirectement aux dieux. Par exemple, vous avez le nom de Emete Ursag, qui veut dire, et de le temple, Mete parure et Ursag du héros. Et le héros, eh bien, c'est le dieu Zababa, et Emete Ursag, c'est le nom du temple de Zababa à Kish. Enfin, vous pouvez avoir des temples qui ont un nom descriptif, et le plus célèbre, bien sûr, c'est le temple de Marduk à Babylone, qui s'appelle Esagil, et de le temple, Sag à la tête, il de élevé, le temple au sommet élevé, donc qui met l'accent sur le caractère visible du monument par rapport à l'ensemble de la ville. À côté donc de tous ces noms que l'on peut récolter dans toute la documentation, eh bien, vous avez des listes. Vous savez que les Mésopotamiens sont des gens qui fonctionnent beaucoup par listes. Et cette liste, elle a été appelée par Moran Canonical Temple List, donc la liste de temples canoniques, et elle a été éditée par George dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure. Cette liste canonique, en fait, elle n'est connue que par 3 manuscrits de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qui sont d'ailleurs assez mal conservés. On a, dans la colonne de gauche, le nom cérémoniel du temple, donc le nom sumérien qu'on a du même type que ce qu'on a évoqué précédemment. Et puis dans la colonne de droite, eh bien, on vous dit en acadien temple de tel dieu. Donc là, vous avez clairement le rapport entre le nom du temple et la divinité qui y demeure. On a d'autres listes analogues, en particulier pour les temples assyriens, qui ont été conservés. Ces noms de temples servent aussi à fabriquer des noms de personnes. J'emploierai ici l'expression qu'a forgée Lucille Barberon à partir d'autres emplois du même mot, onomastique naophor, donc construite sur le nom d'un temple. Et c'est connu en particulier pour les religieuses naditum du dieu Marduk, dont un certain nombre, portent un nom qui fait la louange de l'Essagil. Donc vous avez Erich Essagil, souhait de l'Essagil, Inur Essagil, l'Essagil s'est calmé, Liwir Essagil, puisse l'Essagil briller, Taram Essagil, elle aime l'Essagil, Tab Essagil, l'Essagil est bon, et il y en a encore d'autres. Donc là, vous avez des religieuses dont le nom eh bien, fait écho au nom du temple dans lequel elles sont chargées de prier, en particulier pour les membres de leur famille. Ce phénomène n'est pas limité aux religieuses, on a également des hommes qui portent des noms de ce genre, et c'est connu pour beaucoup de temples. En préparant le cours d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que en fait, personne n'a jamais dressé de liste de tels noms propres, et ça pourrait être une recherche intéressante. En ce qui concerne Ur, on a pas mal de noms sur le nom du temple local, les Kishnugal, par exemple Tzili et Kishnugal, mon ombre, ma protection, c'est les Kishnugal. Pour ce qui est de l'Ebabar, il n'y en a pas beaucoup. De tête, j'ai retrouvé Ebabar Lumour, puissais-je voir l'Ebabar, mais il en existe beaucoup moins que pour les Sagil, par exemple. Alors, vous l'avez vu à propos de ces religieuses, c'est le cas pour d'autres, vous avez aussi une onomastique de fonction qui renvoie au temple, mais je passerai rapidement sur ce point aujourd'hui. On y reviendra dans une des prochaines séances lorsque on étudiera le personnel du temple. Ce que je voudrais aussi souligner, parce que, curieusement, je l'ai déjà fait, mais ça n'a eu aucun écho, donc je veux le redire, c'est qu'il y a une différence essentielle entre les temples et les ziggourats sur ce point. Les ziggourats, donc c'est les tours à étages qui jouxtent les sanctuaires, on en verra concrètement un exemple tout à l'heure avec Larsa, eh bien ces ziggourats, elles ont aussi un nom sumérien, mais pour une raison qui pour l'instant n'a pas encore été élucidée, il n'existe aucun nom propre construit sur le nom d'une ziggourat comme on en a sur les noms des temples. Donc, par exemple, à Babylone, vous avez un grand nombre de noms propres qui sont construits à partir du nom de l'Essagil, le temple de Marduk. Vous n'avez rien sur Etemenanki. À Ur, vous avez des noms qui sont construits à partir de l'Ekishnugal, qui est le nom du temple, mais rien sur Etemen-Nigur, qui est le nom de la ziggourat, et ainsi de suite. Donc là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait qu'on se rattache à l'un et pas à l'autre? Il faudra un jour essayer de trouver une réponse. Pour l'instant, en tout cas, je me contente de souligner le phénomène parce que par rapport à la nature de la ziggourat, ça a certainement quelque chose à nous dire, mais nous ne savons pas encore comment interpréter ce silence. La personnification des temples, eh bien, elle se voit en particulier dans des textes qu'on appelle les hymnes aux temples. On en a des versions très réduites qui datent des environs de 2400, qui ont été trouvées à Abu Salabir, et puis ça s'est développé au cours du temps. Et là, eh bien, on a dans ces textes une invocation qui est faite au temple et qui est faite à la deuxième personne. Celui qui parle au temple, celui qui fait l'éloge au temple, plus exactement, lui parle à la deuxième personne. Donc, « Ô Ebabar, temple de Shamash », etc., etc. Donc, on voit bien que le temple, non seulement a un dieu, mais peut éventuellement être personnifié et on lui parle. Et puis, il y a également un point, c'est le fait que le temple peut, par une sorte de synecdoque, la partie pour le tout, servir à désigner une ville. Donc au lieu de mentionner une ville, on citera son temple principal et ce sera la ville qui sera évoquée. Et le texte le plus célèbre où on constate ce phénomène, c'est le prologue du Code d'Hammurabi. Dans le prologue du Code d'Hammurabi, en fait, vous avez toute une liste de temples et de divinités, mais les villes elles-mêmes ne sont pas citées telles quelles, et c'est nous qui faisons la liste des villes mentionnées, mais en réalité, ce sont les temples et leurs dieux qui sont mentionnés. Le troisième point dans ces éléments généraux que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la question de la fondation, de la destruction, de la reconstruction, très très rapidement, parce que ce sont des sujets énormes, bien entendu. Donc, ce qui est clair, c'est que aux époques classiques de la civilisation mésopotamienne, les temples constituaient un élément marquant du paysage urbain, les temples et les ziggourats attenantes, qui étaient encore plus hautes, et donc ça se voyait de loin. De nos jours, c'est encore le cas, bien que ces bâtiments soient en ruine. Je me rappelle que lorsqu'on se rapprochait d'Uruk en venant de Larsa, eh bien, on voyait la ziggourat d'Uruk, qui est relativement bien conservée, à plus d'une vingtaine de kilomètres. Donc, en tout cas, plus d'une dizaine, par beau temps, hein, quand il y a de la poussière, c'est autre chose, bien sûr. Et donc, c'était quelque chose de fondamental dans cette civilisation mésopotamienne. L'idée pour les habitants de cette plaine, c'est que la protection que le dieu garantit depuis son temple est quelque chose d'essentiel. Et donc, on trouve dans toute une série de textes l'idée que, eh bien, si la ville a pu être détruite parce que l'ennemi est passé par là, c'est que son dieu a abandonné la ville et donc, concrètement, a quitté son temple. Et on voit par conséquent que cette notion est extrêmement importante. Et du coup, il faut faire très attention dans un certain nombre d'actes de la vie courante, de la vie religieuse courante. Par exemple, lorsque vous réparez une statue divine, alors il va y avoir des tas de rituels qui vont être faits, parce que momentanément, le dieu va quitter sa statue pour que les artisans puissent procéder aux réparations, puis ensuite le dieu va rentrer à nouveau dans sa statue. Donc là, c'est un moment extrêmement dangereux. Donc on récite un certain nombre de lamentations, comme si on craignait que le dieu puisse abandonner vraiment sa ville, et ce sont des lamentations qui, dans ce cas-là, ont évidemment un caractère prophylactique. On voit aussi qu'on récitera des textes du même genre lorsque les divinités vont voyager. Et donc, ici, je vous renvoie à la synthèse qui a été récemment publiée par Anne Lennert dans un ouvrage dont je vous conseille vraiment la lecture, The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, qui contient toute une série de contributions tout à fait intéressantes. Ce n'est pas vraiment maniable comme ouvrage, mais j'espère qu'il y aura un jour une version de poche qui le rendra encore plus accessible. Il y a donc des rituels appropriés pour la reconstruction des temples aussi, parce que c'est pareil, quand vous reconstruisez un temple, il faut commencer par abattre ce qui subsiste des vestiges antérieurs, et donc là aussi, le dieu pourrait avoir la tentation de quitter sa ville. Et dans le sens contraire, vous avez aussi des cérémonies particulières lorsque vous avez des dieux qui sont en exil et qui reviennent. Un des cas les mieux connus, c'est lorsque Marduk est ramené des lames par Nabucodonosor Ier, mais aussi plus tard, lorsque Assaradon reconstruit le temple de Marduk qui avait été détruit par Sennachérib en 689, etc. Un dernier point que je voudrais évoquer rapidement, c'est la question des parties constitutives du temple. Alors, je vous montre cette tablette de Marie que j'ai publiée il y a déjà pas mal de temps, et j'étais un petit peu contrarié de voir que Salaberger l'avait oublié dans sa synthèse, parce qu'il parle de ces termes-là en oubliant qu'on a des tablettes qui donnent les dimensions du temple et qui sont des descriptions très précises. Donc vous avez Kisalum, qu'on comprend en général comme la cour, Paparum, qu'on comprend comme une sorte d'antichambre, et Kumum, c'est la chambre proprement dite. Et donc vous avez des bâtiments dans lesquels, vous avez cette tablette dans laquelle vous avez les dimensions qui nous sont données, qui permettent d'avoir une idée pour un temple de la déesse Belet Apim à Shubatenlil, que les fouilles américaines récentes n'ont malheureusement pas encore retrouvé. Donc on a déjà une idée de à quoi ce temple peut ressembler. Donc, c'est clair, les temples sont un élément de continuité majeur de la civilisation mésopotamienne. Et là, il faut faire un contraste avec ce qui se passe concernant les rois et leurs palais. Les rois ont passé leur temps à construire des nouveaux palais, voire de nouvelles capitales, mais il est très rare qu'ils aient créé de nouveaux temples. Ils réparaient en général ceux qui existaient. Si on prend le cas de Larsa, auquel on va s'intéresser dans la demi-heure qui suit, eh bien, on a un bon exemple de continuité sur le site, alors que, en ce qui concerne les palais, eh bien, il y a eu beaucoup plus de mouvement. Les fouilles ont permis de retrouver un palais qui a été construit par Nour Haddad et qui a été abandonné avant la fin de sa construction, donc vers le milieu du XIXe siècle. Et la question, c'est si Nour Haddad construit un nouveau palais, c'est qu'il existait déjà un palais antérieurement. Et puisque ce palais n'a jamais été occupé, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a un troisième palais qui a été construit par son fils et successeur Sinidinam? C'est assez vraisemblable, parce que si Nour Haddad se construit un nouveau palais, c'est vraisemblablement que le palais antérieur ne suffisait plus. Donc, pour la dynastie de Larsa, on n'a pas moins de trois palais différents, alors que le temple de Lébabar, lui, est toujours resté. Et si on regarde le cas de Babylone, dans la durée, c'est encore pire, puisque à l'époque paléo-babylonienne, on a au moins deux palais, celui du fondateur de la dynastie, Sumulael, et puis on en a un autre qui a été construit par le fils d'Amurabi, Samsu-iluna. Et puis ensuite, on sait bien qu'à l'époque néo-babylonienne, il y a plusieurs palais, et là encore, le contraste avec l'Essagil, le temple de Marduk, qui restait toujours au même endroit, qui a été reconstruit, comme en atteste la superposition des couches archéologiques, sur plus d'une dizaine de mètres, ce qui est considérable, mais c'est toujours le même temple, au même endroit, maintes fois restauré. Donc pour connaître ces temples, eh bien, il faut combiner ce que l'archéologie en retrouve et puis ce que les textes en disent, qu'il s'agisse de textes trouvés in situ ou d'autres qui nous apprennent un certain nombre d'éléments sur l'histoire du bâtiment. L'intérêt des fouilles, bien sûr, c'est que, avec la manie qu'avaient les rois lorsqu'ils intervenaient quelque part de mettre une inscription commémorative, eh bien, on arrive à suivre l'histoire architecturale des bâtiments de façon relativement précise. Et donc, j'ai choisi comme exemple aujourd'hui, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, j'ai choisi donc les Babars de Larsa. Pour quelle raison? D'abord parce que c'est un temple qui est connu sur plus de deux millénaires. Les premières attestations écrites remontent à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, à la fin du troisième millénaire, mais il y a certainement eu des choses encore avant, et ça va jusqu'à l'époque hellénistique, donc du 21e siècle jusqu'au 2e siècle avant notre ère, on a 2000 ans. C'est aussi une raison d'actualité parce que vient de sortir le livre de Jean-Louis Huot où il a fait la synthèse de tous ses travaux sur les Babars de Larsa, et donc voilà un cas qui est à souligner, où un archéologue va jusqu'au bout et fait la publication définitive de ses fouilles. Ce n'est pas si fréquent que ça, donc ça mérite d'être salué. Et puis la dernière raison, je dirais, c'est une raison personnelle. Ceux d'entre vous qui m'ont écouté jeudi dernier savent que j'ai participé à cette mission. Quand j'étais étudiant en 1974, et puis ensuite comme épigraphiste dans la deuxième moitié des années 80, et donc, bon, il y a peut-être un peu de nostalgie aussi qui font que j'ai choisi ce sanctuaire. Et alors, un bref rappel de l'histoire des fouilles. Les investigations ont commencé dès le milieu du XIXe siècle avec les fouilles de Loftus en 1854. Ensuite, vous avez eu une première campagne d'André Parot en 1933. C'était l'époque où André Parot terminait la fouille de Tello. Et il s'est transporté avec son matériel et son personnel à Larsa, et parce que Larsa venait d'être terriblement pillée. Et là, je me permets d'insister, parce que j'ai découvert encore un endroit où un collègue a mal compris ce qu'il a écrit dans la revue d'Assyriologie. Les pillages qui ont eu lieu à Larsa ont eu lieu avant que Paro s'y installe, et non pas immédiatement après qu'il ait quitté la ville. Et il parle des avions de la Royal Air Force qui passent sur le site pour essayer de faire peur aux Bédouins qui fouillent. Ça s'est passé dans les années 31-32, avant qu'il y arrive. Alors qu'il y a plusieurs collègues qui ont écrit que les clandestins ont profité de son départ en 33 pour continuer les fouilles à leur compte. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, en effet, c'est que, là encore, j'y ai fait allusion l'autre jour, en 1933, il y a une nouvelle loi des antiquités qui met fin au partage, et donc le musée du Louvre, qui était intéressé à la fouille, a fait comprendre à Parot qu'il ne pouvait pas continuer à subventionner la fouille à fonds perdu. Et c'est comme ça qu'André Parot était en chômage technique, lorsque est arrivé le télégramme qui disait qu'on avait trouvé une statue à Tel Hariri, et c'est comme ça qu'il a été envoyé à Marie. Comme quoi, les quelques mois qu'il a passés à se morfondre en se disant qu'il ne pourrait pas retourner à Larsa, finalement, ça a été pour lui une bonne chance. En 1967, à la demande des Irakiens, Parrou est retourné à Marie, mais il a surtout fouillé le palais de Nouradhad, pas dans le temple. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer à la fois à être à Marie et à Larsa. Et comme Jean Margueron, à l'époque, faisait sa thèse sur les palais mésopotamiens, eh bien, il lui a proposé de continuer la fouille du palais de Nouradhad. Et comme ça, il aurait pour sa thèse des matériaux inédits de choix. Et c'est ce qui s'est passé. Nouvel épisode diplomatique qui fait qu'en 1971, donc après sa deuxième campagne à Larsa, Jean Margueron n'a plus pu continuer pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas et qui n'avaient rien à voir avec lui. Et donc, la fouille de l'Ebabar venait à ce moment-là de commencer, ça s'est arrêté, mais là encore, si je peux me permettre de parler de ces clins d'œil de l'histoire, c'est parce que Jean Margueron était au chômage technique que la découverte accidentelle de tablettes par les archéologues qui fouillaient la mesquénée d'époque musulmane, ils sont tombés sur des tablettes du deuxième millénaire avant notre ère, et donc on a cherché un archéologue qui puisse s'intéresser à ces couches beaucoup plus anciennes, et donc Margueron était libre, et donc c'est comme ça qu'il a fouillé Aymar. Donc vous voyez que deux fois de suite, aussi bien pour Parrot par rapport à Marie que pour Margueron par rapport à Aymar, eh bien, l'abandon momentané de Larsa n'a finalement pas été, pour les individus, une mauvaise chose, mais pour le site, la fouille du site, évidemment, c'était pas idéal. En 1974, Jean-Louis Huot, qui avait déjà participé à la campagne de 1971, a repris la fouille et il a continué très régulièrement, avec une grande campagne de 3 mois tous les 2 ans, jusqu'en 1989. Et puis là, malheureusement, depuis cette date-là, les fouilles ont été interrompues. Alors, ce qui concerne les Babars, ça s'est arrêté en 1985. Les deux dernières campagnes, en 87 et 89, ont concerné le quartier des Grandes Maisons qui est situé au nord et dont je ne parlerai pas. Donc il y a quand même eu pas mal de campagnes, mais évidemment le problème c'est que fouiller un bâtiment de la taille de ce temple, c'est quelque chose de gigantesque et donc on a beau y consacrer de nombreuses campagnes et des gros moyens, malgré tout, on peut dire qu'il reste beaucoup plus de choses inconnues que de choses déjà découvertes. Alors, vous avez ici une vue d'ensemble du temple qui est, et Jean-Louis Huot l'a bien souligné, qui est trompeuse parce qu'elle juxtapose en réalité des éléments qui ne sont pas contemporains. Alors, ce que vous avez ici, c'est la partie la plus haute, hein, vous voyez l'altitude, c'est le temple néo-babylonien, ce que Loftus avait appelé la ruine ovale parce qu'il était tombé sur ce mur qui entoure le sanctuaire, donc un bâtiment avec des pièces relativement petites et des murs extrêmement épais, et c'est là que la vie de l'Ebabar s'est terminée. Donc on voit qu'il y a un petit sanctuaire qui a subsisté. Le dernier texte qui a été trouvé date de Philippe Aridée, donc le successeur demi-frère et successeur d'Alexandre, au IVe siècle avant notre ère. Et puis on voit bien dans la fouille que ça a été encore vaguement occupé jusqu'au IIe siècle, mais il n'y a plus grand-chose. Alors, le dernier roi qui a fait des travaux importants, au moins d'après les textes, c'est le roi néo-babylonien Nabonide. Et Nabonide, n'est-ce pas, dans une grande inscription, rappelle les travaux de son prédécesseur, sur lesquels on reviendra, et puis il dit ensuite que Nabucodonosor a refait le temple, n'est-ce pas, mais que ça ne suffisait pas. Alors, on traduit en général, l'accès à ce temple était trop petit pour la résidence de Shamash, le grand seigneur, et de Aya, son épouse bien-aimée, et son ouvrage trop restreint. Et maintenant, dans ma 10e année, écrit Nabonide, en un jour favorable de mon règne, dans ma royauté éternelle que Shamash aime, Shamash, le grand seigneur, se souvint de sa belle demeure et il conçut l'envie de faire élever, plus haute qu'elle n'avait jamais été, la tête de la ziggourate, son gigounou. Alors, le terme de gigounou est un terme encore obscur, mais qui désigne vraisemblablement une construction qui se trouvait au sommet de la ziggourate. Et donc, vous voyez que Il était question d'abord du temple et des briques nous permettent de savoir que le temple était ici. Et tout à coup, il est question de la ziggourate. Alors, malheureusement, sur le plan, le mot ziggourate a été mis dans la cour. Ici, c'est une cour, en réalité. La ziggourate elle-même est là. Donc, il y a eu, à mon avis, un petit problème de montage de la légende. Il faut concevoir, donc, la ziggourate proprement dite, elle est ici. Eh bien, c'est cette ziggourate qui a été reprise par Nabonide. Et de fait, les fouilles, notamment en 1983 et 85, qui ont dégagé une partie de la couronne de pièces qui est autour, ont retrouvé des inscriptions de Nabonide in situ, alors qu'avant, ce qu'on avait venait de choses qui ont été ramassées à la surface. Donc il est sûr que Nabonide a travaillé là. Et puis un peu plus loin, donc, il nous dit que, sur l'ordre de Marduk, le grand seigneur, des vents s'élevèrent des quatre coins en une grande tempête qui enleva le sable qui recouvrait la ville et le temple. De l'Ebabar, temple imposant, demeure des champs de joie, habitation de Shamash et d'Aya, et de la ziggourate, son guigounou auguste, cella éternelle, chambre éternelle, les fondations purent à nouveau être vues et le plan à nouveau discerné. J'y vis une inscription au nom de Hammurabi, roi ancien, qui 700 ans avant Bournabouriach rebâtit pour Shamash les Babars et la ziggourate. Et je pris peur, je devins anxieux, etc. Alors, il interroge de façon divinatoire les divinités, et puis on lui donne un message favorable pour la reconstruction du temple. Hein, et donc, les dieux, notamment par le biais d'un agneau, donc avec la divination par hépatoscopie, disent au roi qu'il peut entreprendre ses travaux, et ces travaux, donc, on les voit encore aujourd'hui assez bien sur le site. Auparavant, donc, Nabucodonosor avait déjà travaillé, et lui aussi nous fait le coup de l'aspirateur cosmique, hein, qui est le rêve des archéologues, comme vous pouvez imaginer, hein, quand il s'agit de déblayer des mètres cubes et des mètres cubes qui remplissent des cours comme ça. En général, d'ailleurs, les cours, on fait le tour, on ne l'évite pas complètement, parce que la chance de trouver quelque chose est tellement infime par rapport au cubage à évacuer qu'on se contente de sondages. Mais là, vous voyez que les rois nous disent qu'il y a une grande tempête qui permet de retrouver les ruines. Alors, il ne faut pas rire de ces expressions-là, comme je viens de le faire. En réalité, c'est quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui encore, les archéologues peuvent tout à fait tester ça. Alors, le coup du vent de sable qui enlève tout, c'est peut-être un peu exagéré, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'après de fortes pluies, de tempêtes, eh bien, ensuite, le séchage différentiel fait que le plan des bâtiments apparaît. Et si vous regardez ici, ce qui est en noir, c'est ce qui a été vraiment fouillé. Le reste qui est en grisé, eh bien, ce sont... ce sont des traces de plans qui sont apparus au sol après la pluie. Et le premier plan qui a été fait de l'Ebabar, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est par André, n'est-ce pas, qui a visité le site après la pluie, et il a réussi à dresser un plan sans fouiller du tout. Donc, comme toujours, il ne faut pas considérer que les rois disent n'importe quoi dans leurs inscriptions. Il y a une réalité par-dessous. Et donc, Nabucodonosor nous dit que il a refait le temple, qu'il a retrouvé la structure et qu'il a refait les briques, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'inscription de Nabucodonosor, vous n'avez pas la mention de Bournabouriach. C'est Nabonide qui mentionne le fait que Nabucodonosor a retrouvé des inscriptions de Bournabouriach. On pourrait commenter les textes de façon plus complète et plus longuement. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le cas de Larsa, par rapport au scepticisme que certains ont eu par rapport au roi néo-babylonien archéologue, eh bien, ce scepticisme n'a pas lieu d'être. Si vous regardez, par exemple, ce qu'a écrit en 2003 Hans-Peter Schaudig à ce sujet, il est manifestement assez sceptique concernant le fait qu'on aurait retrouvé des statues aussi bien à Sippar qu'à Ur. Et il y a des cas où on peut montrer, de façon indubitable en effet, qu'il y a eu des sortes de pieuses fraudes. On a essayer de faire croire au roi qu'on avait retrouvé des choses anciennes, alors qu'en réalité, il s'agissait de textes qui venaient d'être gravés, notamment des privilèges pour les temples. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait étonnant. Dans le cas de Larsa, les fouilles ont parfaitement confirmé ce que Nabonide indique. On a retrouvé lors des fouilles toutes les inscriptions qui ont été mentionnées pratiquement. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Alors, si on remonte dans le temps, donc dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, eh bien, on a ces rois cassites. Donc, il y a Bournabouriash qui est mentionné. Mais auparavant, toujours en ordre chronologique régressif, vous avez le roi de la deuxième dynastie d'Issine, Adad-Aplaï-Dinam. Il a fait un certain nombre de carrelages sur lesquels vous avez des inscriptions qui sont donc estampées, toujours la même, et qui ont été retrouvées en particulier donc, dans la cour 1. Vous avez aussi des crapaudines. Alors, en général, on vous montre les crapaudines, on ne vous montre pas comment c'est compliqué de les fouiller. C'est pas moi, là. Hein, c'est un autre collègue, c'est tout au fond d'un coffre en briques cuites. Et ensuite, vous voyez, le problème, c'est que vous avez une pierre qui pèse lourd et qu'il faut arriver à extraire en passant des cordes par-dessous. Ce n'est pas du tout évident. Alors, voilà la pierre une fois qu'elle a été sortie, n'est-ce pas? Et vous voyez ici la cupule qui permet au montant de la porte de pivoter. Et puis, vous avez sur le côté, alors ici, ce n'est pas très visible, mais vous avez une photo avec un autre angle qui est là, l'inscription. Et ceci montre bien qu'une partie des inscriptions commémoratives n'était pas destinée à être vue. Et donc, quand on vous parle de propagande à propos de ces textes, il faut faire très attention, les rois s'adressent aux divinités ou à la postérité. Et donc, les inscriptions, le plus souvent, n'étaient pas visibles. Donc voilà une crapaudine de Bournabouriash qui correspond donc à ce qui a été retrouvé. Il y a aussi des briques de Bournabouriash, et c'est ça que Nabucodonosor a manifestement retrouvé. Donc, ce qui est intéressant, c'est la fin, n'est-ce pas, où on nous dit que le roi Bournabouriash, les Babars, temple qu'il aime, à Larsa, il a construit pour lui, c'est-à-dire le dieu Shamash, et, alors, la traduction ici, c'est mieux qu'auparavant, il y améliora pour lui, mais le mot, c'est Diri, n'est-ce pas, en réalité, ici, il y avait eu une erreur de montage. Ce n'est pas le cunéiforme qui correspond. Mais vous avez ici dans la transcription, n'est-ce pas, on vous dit « Diri, Mounani, Diri ». Et « Diri », ça veut dire « en plus hein ». Donc, moi, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas seulement une amélioration, c'est aussi une extension. Et c'est important pour essayer de refaire l'histoire. Alors, il y a des moments où les réfections sont des réfections à grande échelle, puis il y a aussi des endroits où on voit qu'il y a des petites réfections qui ne sont pas terribles. Hein, quand vous voyez comment ici les colonnes torses ont commencé à se casser la figure, et les gens, dans l'Antiquité, hein, c'est à l'époque, à la fin de sans doute à l'époque d'Adad-Aplaï-Dinam, on a glissé des briques cuites à la base pour essayer de renforcer. Donc il y a réfection et réfection. Et puis, alors, ce qui est intéressant pour ce qui a été refait à l'époque cassite, c'est qu'on a refait les sols et on les a rehaussés. Et donc, dans les pièces qui avaient un sol en terre battue, eh bien, lorsqu'on s'est enfoncé lors des fouilles, on est tombé sur des tablettes mises au rebut. Et ces tablettes mises au rebut sont des tablettes d'époque paléo-babylonienne. Donc, on voit bien qu'on est tombé sur des paniers de tablettes qui n'avaient plus d'intérêt. Et on a utilisé ces tablettes d'argile comme matériau de comblement parce que l'argile étant bien dure, c'est quelque chose qui est très commode. Il n'y a pas de gravier dans cette région, donc c'est quelque chose de tout à fait fréquent. Donc là, vous voyez le sol plus récent et puis la fouille en cours de tout ce tas de tablettes. Et il y en a eu beaucoup qui ont été retrouvées. En voilà quelques-unes ici et en voilà une qui a été complètement nettoyée. C'est une liste de rations. Et donc, on n'a pas retrouvé les archives du temple à l'époque paléo-babylonienne dans leur intégralité, mais on a retrouvé des épaves mises au rebut. Hein, ce qu'on appelle en général, c'est des archives mortes. Voilà un bon exemple de ce qui a été retrouvé. Alors, ici, j'ai mis la liste des rois de l'époque paléo-babylonienne qui ont laissé des traces. Donc, si on veut toujours remonter dans le temps, le plus récent, c'est Hammurabi, donc le roi de Babylone, qui avait annexé la ville. Et puis, avant, on a Ouaratsin. Et puis, encore avant, donc, on a Sinidinam et encore Zabaya. Et c'est Sinidinam, vous voyez, qui a laissé le plus grand nombre d'inscriptions. Et donc, ce que je voudrais vous montrer avec un peu plus de détails, c'est cette cour 1 qui a été fouillée donc, à partir de 1974 et qui a donné des résultats tout à fait intéressants. Alors, sur le côté par ici, vous aviez des colonnes qui ont été retrouvées. Dans un premier temps, ces colonnes ont été retrouvées de cette manière. Et puis, nous avions comme contremaître quelqu'un qui s'appelait Daoulay. J'ai retrouvé son nom l'autre jour en préparant ce cours. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors, ça renvoie à une réalité des fouilles en Irak qui remonte en fait aux Allemands qui ont fouillé à Achour au début du XXe siècle, qui avaient formé des ouvriers spécialisés pour retrouver la brique crue. Ce n'est pas du tout évident de fouiller de la brique crue. Hein. Quand vous avez de la pierre, bon, ben, vous cognez, il y a le problème des pierres qui sont tombées, mais la brique crue se distingue assez mal de l'effondrement du bâtiment. Donc vous avez des briques en place et à l'intérieur des pièces, vous avez des briques qui sont tombées et faire la différence entre les deux, ce n'est pas toujours évident. Et ce Daoulay était quelqu'un d'extrême. Donc, vous avez cette tradition d'ouvriers spécialisés qui s'est perpétuée sur le site d'Achour, qui s'appelle Kalat Sherkat, et ces ouvriers donc, s'appellent des Sherkati, c'est-à-dire les gens qui viennent de Sherkat. Et la loi des antiquités à l'époque obligeait toutes les missions à avoir un certain nombre de ces ouvriers spécialisés qui servaient d'encadrement pour les ouvriers moins qualifiés qui venaient des environs. Et donc, Daoulay était le chef de cette équipe de cinq qu'on avait à Larsa, et il était extraordinaire. Alors, dans les années 1974, on n'avait pas des caméras vidéo sur les chantiers de fouilles, donc on n'a pas pu filmer la façon dont il a fait sauter la gangue de terre pour trouver ses torsades par-dessous. Donc on a pris des photos, mais je vous assure, ce n'est pas lui qui les a sculptées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu l'idée de faire sauter l'enduit parce que quelques années auparavant, il avait fouillé avec les Hauts à Tel Rima et on avait déjà trouvé des colonnes torsadées. Et donc toute la question qui se pose maintenant, c'est toutes les fouilles où on a trouvé des colonnes, est-ce que les archéologues n'ont pas gardé un enduit éventuellement plus tardif, ou bien simplement la gangue de terre qui était sur les colonnes, et est-ce qu'un peu partout, il n'y avait pas davantage de colonnes torsadées que... Il y a trois exemples dans les manuels d'archéologie à l'heure actuelle, le troisième c'était Leylan, qui a été fouillé après Larsa, mais moi je suis à peu près persuadé qu'en réalité, en gratouillant, il y a beaucoup de colonnes, de demi-colonnes hein, engagées, dans lesquelles on pourrait retrouver des colonnes torsadées comme ça. Alors voilà le détail, hein, ici, donc il y en a qui partent dans un sens, d'autres qui partent dans un autre, et puis d'autres, au contraire, qui restent plates. Et voilà l'ensemble tel qu'on peut le voir. Alors, vous avez donc ici, aux extrémités, ces plats, au milieu aussi, et puis vous avez, entre les deux, donc, ces colonnes torsadées. Ça fait un effet décoratif très, très beau. L'ombre et la lumière jouent dessus, et au lieu d'avoir des façades aveugles qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, vous avez quelque chose de tout à fait extraordinaire comme décoration. Autre partie de cette cour 1, le grand escalier. Alors, l'escalier est ici, puis vous avez une grande porte ici qui monte vers cette grande salle oblongue. Alors voilà ici donc l'escalier qui est là, et vous avez Jean-Louis Huot en 1974 avec un des architectes de la mission qui est à côté. Et voilà ce que ça donnait. Là aussi, c'est une ruine, mais ça a quand même une certaine allure. Hein. Donc là, vous avez la bordure de l'escalier et vous voyez une vision vers un des panneaux de colonnes torsadées. Il y en avait plusieurs, et puis il y en avait aussi près de l'entrée. On les a vus tout à l'heure. Alors voilà un endroit qui est moins spectaculaire, mais qui est intéressant par l'épaisseur des murs. Hein, vous voyez, c'est considérable. Ce qui veut dire que le temple, évidemment, s'élevait à une très grande hauteur. Nous ne fouillons que des ruines, il ne faut jamais l'oublier. Voilà l'angle de la cour. Et puis ici, vous avez la pièce 8. Alors, je vous la signale parce que c'est là que j'ai fait mes débuts en archéologie orientale. Donc, nostalgie. Et en fait, j'ai été très frustré parce que Yves Calvet, qui fouillait dans la pièce d'à côté, avait un sol en terre battue. Et donc, il a pu passer à travers, et c'est comme ça que les tablettes que je vous ai montrées tout à l'heure, ces tablettes mises au rebut, ont été découvertes. Mais moi, malheureusement, la salle dans laquelle j'étais, eh bien, elle avait un carrelage. Et à l'époque, la loi des antiquités interdisait de faire des démontages. Donc les inspecteurs ont exigé qu'on s'arrête là. Alors, on voit d'ailleurs que tout à fait à la fin de la phase d'occupation, il y a quelqu'un qui a commencé à défaire le carrelage. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on s'est arrêté là. Et donc du coup, moi j'étais persuadé, je sentais mon tablettomètre, si vous me passez l'expression, qui s'affolait. Parce que je me disais, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des tablettes en dessous comme dans la pièce d'à côté. Mais voilà, elles y sont toujours éventuellement. Bien. On va continuer à remonter dans le temps avec le troisième millénaire. Alors, pour le troisième millénaire, on a en tout et pour tout une inscription qui est celle de Ur-Nammu, donc le fondateur de la troisième dynastie d'Ur, et qui nous dit que donc il a bâti un temple pour le dieu Hutu, mais on n'a pas retrouvé in situ d'éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les fouilles qui ont eu lieu, en particulier les sondages qui ont été faits en 83 et 85, ont montré dans la butte qu'on a vue tout à l'heure que les murs néo-babyloniens sont à l'aplomb au-dessus des murs cassites qu'on peut dater parce qu'il y a des briques inscrites qui sont encore dans l'appareillage, et ces murs cassites sont encore au-dessus d'autres murs qui sont certainement les murs paléo-babyloniens. Donc on voit que quand les rois nous disent qu'ils ont reconstruit en suivant le plan de ce qui était fait avant, là encore, il faut les prendre au sérieux. Et c'est un thème sur lequel vous m'entendrez souvent, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il faut prendre ce que nous disent les anciens au sérieux. Il faut interpréter, bien sûr, ce qu'ils nous disent, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais il faut le prendre au sérieux. Hein, et pas se dire, oui, ils nous disent qu'ils ont suivi le plan, mais en réalité, ils n'en ont fait qu'à leur tête, et c'est voilà, une phrase obligée, en quelque sorte. Bien souvent, ça n'est pas le cas. Alors encore avant, là on ne sait pas, mais ce qu'il faut signaler, parce que ce n'est pas très connu, c'est qu'il y a des tablettes de l'époque de Djemdet Nasr, donc aux environs de 3000, les tablettes les plus archaïques, qui sembleraient provenir de Larsa. Donc, pas de les babars proprement dit, mais en tous les cas, ça nous montre que, même si c'est beaucoup moins développé, moins connu, moins documenté qu'à Uruk, par exemple, il y avait quelque chose d'important à Larsa dès ce moment-là. Alors, avant d'évoquer les objets, la question de l'attribution de la grande cour 1 que nous avons vue tout à l'heure, dans son livre, Jean-Louis Huot a tendance à en attribuer la construction à Hammurabi, et je pense que c'est un peu une erreur de perspective. Alors c'est vrai que quand on pense paléo-babylonien, il y a la figure d'Hammurabi qui écrase la période. C'est entendu. Mais si vous vous placez du point de vue de Larsa, eh bien Hammurabi a conquis Larsa simplement à la 30e année de son règne. Il y est resté encore pendant 13 ans. Il y a son fils Samsu-iluna qui est resté pendant une douzaine d'années et pas plus. Et on n'a aucune inscription de Samsu-iluna. Et il y a un élément que Jean-Louis Huot a oublié dans son livre, qui est dû au fait qu'on n'a pas retrouvé d'inscription de ce roi in situ. C'est le roi Waradsin, donc l'avant-dernier roi de la dynastie de Larsa, et il y a un nom d'année dans lequel il célèbre la construction d'une grande cour. Et du coup, moi, je me dis, la grande cour, ça pourrait bien être la cour 1, et en fait, il faut faire remonter, et ce serait assez logique, d'une certaine façon, que cette vaste cour puisse remonter à l'époque de Waradsin. Là encore, il y a une absence tout à fait étonnante qu'il faut relever, c'est que son frère Rimsin, qui lui a succédé assez vite et qui a eu un règne de 60 ans, on n'a pas une inscription in situ. Mais là encore, on peut se dire que ça peut être dû au hasard. Moi, je verrais assez bien la grande cour lancée par Waradsin. Comme il meurt au bout de 13 ans, il n'a pas eu le temps, et que c'est sa cinquième année qui commémore ça, les constructions n'étaient pas forcément terminées, et ce serait Rimsin qui aurait continué, mais il n'aurait pas fait d'inscription commémorative parce qu'il n'aurait fait que continuer quelque chose qui aurait été déjà lancé par son frère, et donc il ne voulait pas s'attribuer en quelque sorte un travail qui avait été commencé auparavant. Alors, on sait que dans les temples, il y a des offrandes votives en abondance, mais évidemment, un bâtiment comme les Babars qui a vécu pendant 2000 ans, il a passé son temps à être vidé, pillé, et presque tout a disparu. On n'a pas malheureusement retrouvé d'inventaire des trésors de les Babars de Larsa, comme il en existe pour d'autres temples, différentes périodes. Qu'est-ce qu'on a retrouvé lors des fouilles ? Alors, je sais qu'aujourd'hui, le prix Nobel a été donné aux inventeurs de lampes LED, mais ça, ce n'est pas une ampoule, hein, ça ressemble vraiment, mais c'est une masse d'armes. Hein. Vous la voyez de profil, vous en voyez deux autres du dessus, et là, on voit bien le passage du bâton. Bon, c'est pas très... elles ne sont pas inscrites, malheureusement. Quelquefois, dans les temples, on en trouve qui sont inscrites avec, effectivement, une dédicace aux dieux. Donc, on sait que c'est une pratique qui se fait. Mais tout le monde ne faisait pas inscrire une masse d'armes votives. Et puis, alors, vous avez ces choses étranges, ici, là et là. Ça, c'est une de mes grandes fiertés aussi, parce que c'est moi qui les ai trouvées. Et ce sont des plaques de verre. Alors, on ne voit pas que c'est du verre, parce qu'il y a eu à l'extérieur une oxydation, mais ici, il y a un petit éclat qui est parti. On voit que c'est un bleu de cobalt assez profond. Et là, il y a une petite fente, ça a été recollé. Et dans l'épaisseur, on voyait que c'était bleu. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des petits trous, là, là et là. Et ici, ça a une drôle de forme. Et à l'époque de la fouille, j'avais suggéré que ça puisse être des éléments d'une statue. Et j'avais dit que ça pourrait être une épaule, par exemple. Et j'ai été très heureux de voir que dans la publication qui vient de sortir, Jean Huyot reprend cette explication en disant que ça pourrait bien être des éléments de statues composites. Alors, on parle toujours de ces fameuses statues composites. Et bien voilà. Là, l'intérêt, c'est que ces éléments-là datent du XIe siècle. Et donc, on n'a pas tellement de témoignages sur le verre en Mésopotamie proprement dite, pour ces périodes-là. Donc, ça avait beaucoup intéressé quelqu'un comme Murray, dans son livre sur les matériaux, il en parle. On a aussi retrouvé, ça c'est dans les fouilles Margueron, une statue qui malheureusement est acéphale et un épigraphe. Mais enfin, bon, ça nous indique bien qu'il y en avait certainement d'autres. Et puis, surtout, des magnifiques koudourous. Alors ici, vous avez une vision de ces koudourous en morceaux tels qu'ils ont été retrouvés dans la fouille. Et puis ici, après nettoyage et recollage des morceaux, vous en avez deux, on reparlera de celui-ci un peu plus tard. Voilà, donc les épaves qui nous sont parvenues, des trésors qui étaient offerts à la divinité et qui certainement étaient abondants. Donc, il est grand temps de conclure. Le temple, c'est en effet la maison du dieu qui demeure dans sa statue de culte. Mais on verra aussi que les temples ont des fonctions spécifiques qui sont liées à la spécialité des dieux au sein du Panthéon. Et donc, c'est ce qu'on développera. Mais je voudrais, avant qu'on aborde de façon précise cette thématique, continuer à vous présenter les temples de manière un petit peu plus générale, et en particulier en examinant le statut du personnel des temples et poser le problème de la notion de prêtre ou de clergé, ce qui, je pense, nous occupera les deux prochaines séances. Merci de votre attention.